verset se trouve en Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 8. Je parle plus fort, d'accord. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Prions ensemble. Notre Père, c'est vrai, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ensemble pour s'encourager, pour être en communion, pour adorer ton nom, pour apprendre de toi. Merci Seigneur pour tous mes frères et mes sœurs qui sont ici, qui m'encouragent. Merci pour cette famille extraordinaire que tu as créée, que tu as formée, qui marche de partout dans ce monde, après le conduit de ton esprit. Merci infiniment, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'avoir ta parole pour nous instruire, d'avoir ton Esprit Saint en nous pour nous conduire. Merci infiniment, Seigneur, pour la joie que nous avons de vivre en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de toi, qui marchent d'après ta volonté. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous diriges, que tu nous fortifies à travers ce temps passé ensemble. Que notre lumière brille, cette lumière que tu as mise dans nos cœurs, par ton esprit en nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Maurice a parlé de la personne du Saint-Esprit. Il a aussi parlé de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'il a raconté pas mal de choses de sa vie. Et en racontant ces choses, il a raconté l'œuvre du Saint-Esprit. Il a raconté ce que Dieu a fait à travers lui. Et moi, j'ai un sujet assez énorme devant moi, pour vous, le Saint-Esprit et l'Église. Et je vais d'abord préciser un peu ce que je vais traiter avec les sujets qui vont suivre, qui concernent le chrétien individuel. Je vais présenter en général aujourd'hui les textes et l'enseignement qui concernent les croyants rassemblés ensemble, l'Église dans son ensemble. Et pour voir l'Esprit à l'œuvre dans l'Église, il me semble évident de commencer par les actes, de voir dans les actes ce que l'Esprit a fait à travers l'Église. Et Luc, dans les actes, il mentionne l'Esprit à peu près une soixantaine de fois dans les actes. Alors, si c'était 280 fois dans le Nouveau Testament, ça fait presque un quart des mentions de l'Esprit Saint qui se trouvent dans les actes. On est déjà bien parti. En plus de ça, il lit presque une vingtaine de verbes à l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit fait d'après avoir lu les actes, d'après la lecture des actes. Le Saint-Esprit instruit, il vient, il annonce, il remplit, il donne, il témoigne, il dit, il emporte, il appuie, il tombe, il éclaire, il appelle, il envoie, il décide, il empêche, il emprisonne. Oui, on va voir ça. Il atteste, il établit, il pousse, il déclare. Encore une fois, ça suffit. Oui, encore une fois. Bon, on va garder ça. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des actes comme des actes du Saint-Esprit, des fois. Le Saint-Esprit est en action de myriades de façons. Et pour ce matin, moi, je vous présente trois aspects de l'œuvre du Saint-Esprit qui concerne l'Église dans son ensemble et donc qui viennent des actes. Je rassemble un peu cette œuvre en trois parties. Il s'agit de notre identité, de notre mission et de notre solidarité. Notre identité en premier, parce que dès le début de l'Église, une grande et délicate question confrontait les frères. C'était la question des païens dans l'Église. Surtout la question de la circoncision. Cette question est au fond une question d'identité. Le problème a provoqué la conférence à Jérusalem que nous avons en Actes chapitre 15. Et nous lisons en Actes chapitre 15 qu'une grande discussion s'était engagée. Oui, si vous voulez retrouver Actes 15, à partir de verset 5. Les croyants du parti des pharisiens disaient qu'il fallait circoncire les païens. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, verset 7, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile, afin qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Dieu témoigne à l'identité des païens par le Saint-Esprit. Il leur donnait le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Changement d'identité pour les païens. Changement d'identité pour nous. Dieu témoigne à notre identité en nous donnant le Saint-Esprit. Maintenant, avant d'aller plus loin, cette question de circoncision n'était pas rien. On lit en Genèse 17 qu'un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera retranché du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Les pharisiens convertis ont voulu faire une bonne chose. Ne pas être circoncis, c'est être retranché du milieu du peuple. C'est clair, avant Jésus, le sceau du peuple de Dieu était bien la circoncision. Mais plus maintenant. C'est par l'Esprit, maintenant, qu'on identifie le peuple de Dieu. La conclusion de la conférence de Jérusalem devant l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, comme nous venons de lire, il ne fait aucune différence entre nous et eux. Parce qu'il a donné le Saint-Esprit à ses païens. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Réfléchissez un peu à ce changement chez les juifs chrétiens que l'Esprit amène. Ce changement serait vraiment énorme pour eux, ces chrétiens d'origine juive. Parce que avant, sans être circoncis, ces païens n'ont même pas pu entrer dans le temple. Maintenant, par le Saint-Esprit, leur identité sera transformée. Avant, ils n'ont même pas pu se mettre à table ensemble, païens et juifs. Maintenant, ils se retrouvent en famille par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Ils deviennent ensemble une habitation de Dieu en esprit. Comme dit l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2. Une habitation de Dieu en esprit. C'est vraiment extraordinaire quand on voit qu'avant, ils n'avaient même pas eu la possibilité de se mettre à table ensemble. C'est l'Esprit qui est en eux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par l'Esprit, les païens qui n'ont pas pu entrer dans le temple sont devenus le temple de Dieu. Alors, c'est une chose extraordinaire. Et quand même difficile pour les juifs de changer tout ça dans leur tête. Extraordinaire. Les païens qui n'ont même pas pu entrer dans le temple sont devenus le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, 1 Corinthiens 6, 19. Cette question de circoncision, donc, encore, il n'y a plus de sceau de circoncision dans l'Église. C'est par quoi? Par l'Esprit que nous sommes scellés maintenant. Éphésiens 1, 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Voilà notre identité par l'Esprit. Encore 2 Corinthiens chapitre 1, 21, 22. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous donne l'onction, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs l'Esprit, son Esprit. Dieu a mis sa marque personnelle sur nous. Nous sommes identifiés à lui par son Esprit Saint. Voilà notre identité. Voilà comment on va définir notre identité. Par son Esprit Saint, marque personnelle de Dieu en nous. C'est chose extraordinaire. Encore un instant, en ce qui concerne le temple. On revoit le temple, on reconnaît le temple comme saint. Nous sommes ce temple. Nous devons aux uns et aux autres beaucoup de respect. On ne dit pas rien, on ne fait pas rien avec le temple de Dieu. C'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Temple du Saint-Esprit. Ensemble, nous faisons un lieu saint. Temple du Saint-Esprit. C'est notre identité. Qui sommes-nous? Une habitation de Dieu en esprit. C'est fondamental pour nous, le rôle de l'esprit dans notre identité. Fondamental. Dans les actes, on voit que c'est par l'esprit que le peuple de Dieu est identifié. Par l'esprit en nous. Donc, comme le juif prétendant sans la circoncision et le chrétien prétendant sans le Saint-Esprit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit l'apôtre Paul, Romains 8, 9. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, vous connaissez Romains 8, 14 et suivant, sont fils de Dieu. Cet Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous faisons partie d'une famille. Nous connaissons notre identité par l'esprit qui témoigne à notre esprit, à notre sujet, enfants de Dieu. Qui est gage de quoi? Notre héritage. Parce que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous savons donc qui nous sommes et ce qui nous attend par l'Esprit qui est gage notre héritage, qui témoigne notre identité. Pourquoi? Parce que Jésus a bien promis, comme Maurice a lu tout à l'heure, on a lu même hier soir, je ne vous laisserai pas orphelins. Non. On n'est pas des orphelins. Pas du tout, nous. Nous sommes ensemble enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Ici, habitation de Dieu en esprit. Orphelin, non. Enfant de Dieu, oui. Portons sa marque personnelle. Eh bien, l'esprit va témoigner à l'identité de l'Église à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Il va nous aider à l'intérieur de l'Église, nous rappeler qui nous sommes. Des fois, on oublie. Et il va témoigner au monde autour de nous qui nous sommes aussi, afin qu'eux aussi connaissent notre identité. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. 1 Jean 4, 13. Alors, par l'esprit donc, je dis moi, je demeure ici, je sais où je demeure, je connais mon identité, j'appartiens ici. Par l'esprit, je peux dire, c'est notre église, moi, je fais partie, c'est mon habitation, j'habite ici. L'esprit nous implique dans son œuvre et nous avons à accueillir tout ce qu'implique notre identité. Nous avons à vivre dans la joie des enfants de Dieu. Par l'esprit consolateur, nous devons être un peuple consolé, un peuple rassuré, un peuple confiant dans ce monde où nous jouons le plus important rôle qui soit. Nous qui sommes ici, nous jouons le rôle le plus important qui soit. C'est le rôle de proclamateur du royaume de Dieu. Et nous avons tout par son esprit pour faire cela avec confiance, étant consolés et rassurés. Soyons consolés, soyons rassurés, soyons confiants. Dieu a mis sa marque personnelle sur nous. Et il nous a préparés donc à vivre dans ce rôle de proclamateur. À mon avis, c'est dans notre plus important rôle que l'Esprit Saint, lui, joue aussi son rôle le plus important. C'est-à-dire, c'est lui qui nous conduit dans notre mission. Deuxième point pour aujourd'hui, après avoir bien compris notre identité, c'est bien comprendre le rôle de l'Esprit dans notre mission. Et là, c'est les actes qui en parlent sans cesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons reçu une puissance de l'Esprit, surtout pour témoigner. Tout le livre des actes développe l'accomplissement de cette parole de Jésus. Et dans les actes, l'Esprit ne prend pas la parole, si vous voulez. Il parle. Il ne prend pas la parole que 4 fois. L'Esprit parle. Nous allons voir ces textes. Et quand il parle, à chaque fois, il s'agit d'encourager l'annonce de l'Évangile. Considérons ces textes où l'Esprit dit quelque chose. D'abord, après avoir annoncé la parole à Jérusalem et en Judée, prochaine étape, c'est la Samarie. On va aller en Actes au chapitre 8. On va voir, après avoir annoncé un peu partout la parole en Samarie, ses disciples dispersés, l'Esprit va se présenter à Philippe, en chapitre 8, verset 29. Et l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » L'Esprit dit, « Avance et approche-toi de ce char. » C'est Philippe et l'eunuque. Nous connaissons bien l'histoire. C'est l'Esprit qui a envoyé Philippe. C'est l'Esprit qui dit, « Avance, approche-toi. » N'avez-vous jamais entendu quelque chose de pareil? N'avez-vous jamais entendu l'Esprit qui vous dit, « Avance, approche-toi. » Je suis sûr qu'il veut nous dire, « Avance, approche-toi. » Nous allons voir, ce sont des récits banals, si vous voulez. Nous passons en voiture, lui, il passait un char. Bon, je ne vais pas trop loin en vous doublant. Non. Mais l'Esprit va nous envoyer. Si ce n'est pas l'Esprit qui nous envoie, dites-moi. J'espère que vous n'allez pas à votre propre gré pour annoncer l'Évangile. Non, vous allez parce que vous êtes envoyé. En général, en ce sens-là, je parle de la parole de Jésus, certainement. Mais vous allez avoir des possibilités. Maurice doit en raconter encore parce qu'il en a raconté. On a parlé hier. Mais voilà son œuvre, exemple. Eh bien, deuxième texte, c'est l'Évangile annoncé après les Samaritains aux païens, chapitre 10. Pierre vient d'avoir une vision. Et chapitre 10, verset 19, « Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars. » Lève-toi, descends et pars. Avance, approche-toi. Lève-toi, descends, pars. Voilà les paroles de l'Esprit. Sans hésiter, Pierre, pars. Car c'est moi qui les ai envoyés. Alors là, j'ai une petite parenthèse pour vous. Il faut quand même le voir. Vous avez remarqué ici, qui a été envoyé par l'Esprit Saint? Parenthèse. Trois païens, envoyés par l'Esprit Saint, je répète, si vous n'avez pas entendu. Trois païens, envoyés par l'Esprit Saint. Si nous n'allons pas chez les païens, Dieu va envoyer les païens chez nous. Hein? Dieu veut tellement que le monde connaisse l'Évangile qu'il va envoyer les non-chrétiens vers les chrétiens, lorsque les chrétiens n'iront pas d'eux-mêmes. Et Pierre, il hésite encore. Alors, j'avais écrit ça avant l'histoire, mais j'ai noté, vous ne voulez pas évangéliser les Chinois? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va peut-être vous envoyer la semaine prochaine les Chinois, à côté chez vous. Tiens. Eh bien, il faut que nous soyons à l'écoute lorsqu'il veut nous envoyer. Encore, chose banale, un char, tu passes, quelqu'un qui tape à la porte. Chose banale. Chose banale. Mais l'Esprit parlait, ses âmes écoutées sont allées. Encore une fois, la mission de Paul, de Barnabas, se lance, chapitre 13 des Actes, à partir de verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à... je ne peux même pas dire cela. Celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Envoyés par le Saint-Esprit, ces hommes. Le Saint-Esprit a à cœur l'annonce de Jésus. Et lorsqu'il a nos oreilles, il nous appelle, il nous envoie. Peut-être comme en Actes chapitre 13, en plein milieu du culte. Peut-être. Donc, attention dimanche prochain. Et si vos membres le plus fort en évangélisation doivent partir en mission la semaine prochaine, envoyés par l'Esprit, seriez-vous dans la joie ou dans la tristesse? Réfléchissez. Il veut nous envoyer. Il veut nous envoyer. Nous ne pouvons pas l'échapper. Une église qui est sur la même longueur d'onde de l'esprit, c'est une église bien impliquée dans la mission, dans l'annonce du royaume de Dieu. C'est clair, c'est clair. Le Saint-Esprit et l'Église, dans un mot, c'est mission. C'est mission. Le souffle, l'Esprit, dit Jésus, Jean chapitre 3, nous devons entendre sa voix. Et moi, je pense quand même, on peut dire, nous n'allons certainement pas tout comprendre de l'Esprit Saint. Et heureusement d'ailleurs, nous ne sommes pas Dieu. Mais nous, il faut entendre sa voix. Il faut entendre sa voix. Encore dans les actes, trois fois, nous lisons que l'Esprit Saint remplit les chrétiens rassemblés. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de situations en parlant de l'Esprit qui remplit. Trois fois, l'Esprit qui remplit les chrétiens assemblés. En Actes chapitre 2, chapitre 2, et le résultat, il déclarait les bienfaits de Dieu. En Actes chapitre 4, et le résultat, il annonçait la parole de Dieu avec assurance. En Actes chapitre 13, et ils étaient remplis de joie. Ensemble, remplis de joie pour annoncer l'Évangile. Voilà un peuple rempli de l'Esprit Saint. Voilà. D'après les Actes, d'après ce que nous voyons. Alors, dans la mission conduit par l'Esprit, nous aurons peut-être des surprises. Là encore, Maurice vient de le dire. L'apôtre Paul est allé en Macédoine, pourquoi? Parce que l'Esprit l'empêchait d'aller en Asie. On va peut-être être empêché aussi. Eh bien, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne son trajet vers Jérusalem, Actes chapitre 20, 22. Maintenant voici, emprisonné ou lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et l'Esprit Saint m'avertit que je vais convertir beaucoup de monde. Non. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous avez envie de vous retrouver ainsi? C'est peut-être ce que l'Esprit va vous amener dans la mission. Alors, en plus, plus loin, nous aurons notre parole en ce qui concerne l'apôtre Paul, qui sera lié. Vous vous souvenez de l'histoire d'Agabus? L'Esprit déclare. Ceinture qui appartient à cet homme, il sera lié. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne voulait pas tout simplement que l'apôtre annonce l'Évangile à Jérusalem, mais aussi à Rome. Il voulait aller plus loin avec. Donc il l'a amené jusqu'à Rome, devant les païens. Alors le Saint-Esprit nous appelle, le Saint-Esprit désire nous envoyer. Mais il me semble qu'il ne nous force pas. S'il voulait, il pouvait. Il n'y a pas de problème. Mais il ne nous force pas. Non, nous avons à être à l'écoute. Nous avons à dire, je suis prêt. Je suis à l'écoute. Eh bien, cette Église qui connaît son identité et sa mission agit. Elles, ensemble. Et le troisième aspect de l'Esprit dans l'Église que je vois en général dans les actes, que je voudrais souligner, concerne notre solidarité, notre unité. Lorsque l'Église est face à une difficulté, c'est l'Esprit qui agit à travers les fidèles pour que l'Église puisse surmonter et avancer. Actes chapitre 6, chose qui m'étonnait la première fois. Je l'ai lu, je me souviens. Pour servir à table, que faut-il? Actes chapitre 6, pour servir à table. Vous vous souvenez? Il faut être rempli d'Esprit Saint et de juste pour servir à table. C'est pas mal déjà. Hein? Choisissez sept hommes. Il n'est pas dit, il faut choisir sept hommes qui connaissent bien la cuisine. Non. C'est pas comme ça qu'on choisit les gens. Sept hommes remplis d'Esprit Saint, de sagesse, pour servir à table. Voilà. En ce qui concerne la question de la circoncision, là on est commencé là au début, question fondamentale qui aurait pu diviser l'Église, qui aurait pu bien diviser l'Église, c'est l'Esprit Saint qui est présent et qui soutient l'unité. C'est devant l'œuvre de l'Esprit Saint que les apôtres disent, voilà ce qu'il a fait. Et dans la discussion même, qu'est-ce qu'on lit à la conclusion? Acte 15, 28. Il a paru bon. Vous connaissez ça? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Le Saint-Esprit est impliqué dans la décision, dans la discussion, jusqu'au point où les apôtres ont la possibilité d'écrire carrément. C'est écrit, c'est la lettre. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. L'Esprit est là pour nous aider à rester unis et avancer, à surmonter les questions, même les plus graves. C'était une question grave, fondamentale pour l'Église, cette question. Et l'apôtre Paul donne encore plus de détails dans son épître aux Galates à ce sujet. Alors, l'Esprit Saint étant complètement impliqué dans la décision prise à cette conférence à Jérusalem, s'implique toujours pour garder l'unité, l'harmonie, les croyants. C'est toujours dans le but d'édifier, on lit que c'est pour le bien de tous, pour l'utilité commune que l'Esprit se manifeste. C'est l'Esprit Saint lui-même qui nous donne l'unité d'après Éphésiens chapitre 4, où nous sommes encouragés, exhortés en ceci. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Nous avons reçu quelque chose. Notre boulot, c'est conserver ce que nous avons reçu. Conserver l'unité de l'Esprit. Pas créer, pas travailler vers, dans le but de, mais conserver. On conserve ce qui existe. On est d'accord. Et c'est l'unité de l'Esprit. Conserver ce que l'Esprit nous a donné. Que nous soyons tous d'accord ou pas sur notre compréhension de toutes les choses que nous avons à comprendre de Dieu, de cette vie, nous avons tous à être d'accord en ceci. Celui qui marche par l'Esprit Saint se trouve sur le chemin vers l'unité, car c'est le chemin que l'Esprit prend toujours. Il nous donne l'unité. Il nous demande à conserver cela. 3. Parfait. C'est bien tombé. Je n'ai que 6 pages qui restent. Non. Résumons. Une habitation de Dieu en esprit, conduit par l'esprit, sera une église consolée, rassurée et confiante dans son identité d'enfant de Dieu, car c'est l'esprit lui-même qui témoigne. Elle sera donc source elle-même de consolation, d'assurance, de confiance par ce même esprit qui agit en elle. Une habitation de Dieu en esprit, conduite par l'esprit, sera une église missionnaire, car l'Esprit Saint qui l'habite ne cesse d'appeler et d'envoyer. Lorsqu'il parle, c'est dans le but de faire connaître le Christ, d'annoncer l'Évangile. Cette église va encourager la mission chez les siens et partout dans le monde. Une habitation de Dieu en esprit, conduite par l'esprit, sera une église efforçant à conserver l'unité. L'unité de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint donne. Et qui prendra ses décisions toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Qui peut dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Que l'Esprit Saint remplisse nos églises, que nous soyons par lui un peuple consolé et confiant, un peuple missionnaire, un peuple uni au service de Dieu. Merci.
Merci Craig, j'ai vraiment apprécié l'étude et j'ai aussi apprécié les progrès dans la langue française que tu as fait. Vraiment, c'est très bien.